France Info.
Bonjour Francis Rossi.
Good morning.
Vous êtes le cofondateur et le chanteur du groupe Statu Quo, le seul et unique membre depuis la disparition de Rick Parfitt à avoir traversé toutes les époques sans aucune interruption. Je précise que le groupe a été fondé en 1962, d'abord sous le nom de The Spectre, avant d'emprunter définitivement celui de Statu Quo en 69. Ensemble, vous les Frantic Four, vous avez enregistré plus de 60 tubes classés dans les charts du Royaume-Uni, parmi lesquels 22 ont atteint le top 10. On pense à Hello, Pictures of Matchstick Men, Whatever You Want, In the Army Now, Down Down, Blue For You, Undelevel, Caroline. Aujourd'hui, cette même énergie saute aux oreilles dans votre nouvel album intitulé The Accidental. Ce qu'on comprend, c'est que vous aimez l'imprévu, finalement. Vous aimez être surpris vous-même, Francis Rossi.
Oui, beaucoup. C'était très bien pour la première fois de ne pas avoir de paramètres, d'être dans un groupe. Vous savez, ce côté démocratique, comme on le sait tous, la démocratie, ça ne fonctionne pas. Dans un groupe, il faut permettre à chacun d'avoir leur mot à dire ou leur chanson, alors que là, quoi qu'il arrive, je faisais ce que je voulais. Depuis 3-4 ans, il y a eu un sens de libération qui m'est arrivé, je sais pas d'où ça vient. Quoi que j'aime bien faire, je regarde l'ordinateur et l'écran, quoi que je veuille faire, on le fait. Donc ce que je fais, des trucs avec les voix que je n'aurais jamais fait avant. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe, les gens vont se moquer de vous. Et il y a une chanson là-dedans qui avait besoin de ça, elle était trop basse, et donc je suis revenu enregistré, je l'ai enregistré comme ça. C'était très gênant, bien sûr, mais deux semaines plus tard, ça ne l'était plus. C'était comme ça que sa chanson devait être. Donc j'ai commencé à poser ma voix différemment de d'habitude. J'ai pas beaucoup de voix, mais j'ai commencé à... Aujourd'hui, je l'utilise mieux, du coup. Et tout ça m'a donné un sens de liberté, de nouveauté, de fraîcheur, même si c'est un nouvel album. Donc il me reste encore beaucoup de temps avant que je sois saoulé de cet album.
Je me suis posé la question de savoir à quel moment vous avez découvert votre voix, justement, Francis Rossi, parce que vous avez commencé très jeune au lycée, mais à quel âge vous avez compris, vous avez senti que cette voix, elle allait devenir quelque chose, qu'elle allait vous permettre de raconter des histoires?
Je n'ai jamais réalisé. C'est devenu quelque chose, mais c'était un accident, vraiment. Les disques qui sonnaient comme ça avant, de manière très nasale, et ma voix notamment, mais je me rappelle, à Lancaster, j'ai rencontré Alan Key et on jouait de la trompette dans l'orchestre de l'école. J'ai suggéré qu'on ait un groupe et on chantait ce genre de morceau. Et quelqu'un a dit « Formons avoir un groupe ». Il y avait de gros groupes de pop à l'époque. Et Alan Keyes, il était dans un groupe d'accompagnement pour un autre artiste et on s'est assis et lui, il nous apprenait à jouer de la guitare. Et il a dit « Mais un de vous doit chanter ». Et là, silence. Donc j'ai essayé. C'est la première chose que j'ai essayé de chanter. Je crois que je suis timide, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est au contraire de cela. Et à ce moment, je me suis débarrassé de la timidité, j'ai commencé à faire ça, mais je peux toujours retourner me recroqueviller dans ma timidité. Hein. Je suis assez étrange sur ça.
Ce qui est étonnant, c'est que on oublie de le rappeler, mais quand le Statu Quo est né, les Beatles n'avaient pas encore sorti leur premier single. On n'avait pas encore cette notion de groupe de la musique pop. Statu Quo est vraiment... précurseur dans ce domaine-là. Il reste les Stones, Statu Quo, les Who. Enfin, vous êtes très peu nombreux. Statu Quo a incarné ça. Est-ce que c'était dès le départ cette envie que vous aviez, Francis Rossi, aussi, au-delà du fait de jouer avec des amis et de créer une famille sur scène, que de proposer autre chose qui n'était pas fait auparavant?
Je crois que c'est gentil que vous disiez ça, qu'on a envie de donner aux gens quelque chose d'artistique, mais je crois qu'on voulait être célèbre. Je voulais être aimé comme les Everly Brothers ou comme les Beatles, mais il semblait que tout le monde aimer les Beatles. Et plus tard, quand on a eu du succès, on s'est rendu compte que ça pouvait pas être comme ça. Vous avez de la chance que certaines personnes vous aiment, et par définition, la plupart des gens ne vous aiment pas. Et ça prend un petit moment pour s'ajuster à cette notion. Mais une fois que vous vous ajustez à ça, il y a quelque chose qui arrive qui fait que vous avez envie de continuer. Et je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Mais après avoir fait ce disque et les concerts solo que j'ai fait avec, c'est intéressant de trouver quelque chose de nouveau. Mais j'ai sûrement seulement 4 ou 5 ans avant de rejoindre le cimetière, peut-être, donc j'en profite.
Je Je voudrais qu'on parle de la pochette de l'album. Elle est surprenante, cette pochette. On vous voit effectivement dans une sorte de boule, au milieu d'un chemin. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin, justement. Quel regard vous portez sur le chemin que vous avez déjà accompli et sur, justement, le fait de regarder devant et d'avoir encore plein de projets?
Il m'a envoyé plein d'idées pour la pochette. Et moi, celle-ci m'a vraiment marqué, quoi. J'aime beaucoup voir les avenues dans la perspective. Quand j'étais jeune, on voyageait au travers de la France et il y avait plein de routes qui étaient comme ça avec les arbres sur le côté. J'ai quelque chose à la maison qui ressemble à ça. C'est pas particulièrement une œuvre d'art extraordinaire, mais il y a quelque chose dans cette perspective, cette fuite en avant. C'est quelque chose auquel je ne pensais pas. J'adore juste la tête que ça a, quoi. Donc d'être plus en contrôle sur mon projet que je n'ai jamais été avant, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Quand dans la démocratie d'un groupe, il faut que vous autorisiez que quelqu'un d'autre ait une idée et un point de vue, et il faut que vous fassiez des concessions que vous n'auriez pas fait si vous étiez tout seul dans une dictature.
Là, on vous découvre différemment. J'ai l'impression que vous découvrez vous-même différemment. Et c'est là qu'a eu lieu l'accident. C'est-à-dire que vous êtes rendu compte vous-même que vous étiez là et que vous étiez capable de faire sonner votre voix de telle ou telle façon.
Oui, je crois que c'est ça. Il y a un sens de liberté, de continuer à aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, j'ai rigolé sur le fait d'aller au cimetière, mais ça ne va pas prendre très très longtemps. Et bien sûr, je me dis qu'il y a des choses que j'ai envie de faire avant que ça arrive. Et ça, c'en est une. Et chaque jour, en allant dans le studio, il y avait quelque chose d'autre qui arrivait, un autre accident. Et ça continuait de grandir et je ne crois pas. Il faut faire attention parce que j'aime beaucoup, je suis vraiment amoureux du projet et de ce disque. Mais peut-être que ce n'est pas si bien que ça, c'est peut-être juste pour moi que c'est bien. Peut-être que moi, j'en retire quelque chose. Je suis prêt à accepter que les gens ne l'apprécient pas comme moi, mais moi, je l'adore. Et je suis vraiment, peut-être vous penserez que j'ai la grosse tête de me dire que je l'adore, mais vraiment, je l'aime à en mourir, vraiment.
Ce projet, vous l'aimez à en mourir aussi parce qu'il vous correspond, parce que là, on a une vraie définition de qui est Francis Rossi, à travers, effectivement, des histoires humaines qui sont assez surprenantes. On va parler, justement, de ce garçon, Iran Ilan Gantalaik, qui a été un ami, un copain d'école de vos enfants, qui est le guitariste, justement, de cet album. C'est pas que la boucle est bouclée, mais il y a une espèce d'histoire de famille. Là, pour le coup, on s'adresse à des gens qui vous connaissent très très bien et qui vous ont créé un album aussi sur mesure.
Oui, encore une fois, ça fait partie des accidents. Le type, l'ingénieur du son dont je vous parlais tout à l'heure, qui écrit des chansons avec moi et qui joue dans les concerts acoustiques, il était guitare tech sur Status Quo. Et il est allé à l'école avec mon fils Kieran et cet ingénieur du son, le jeune homme dont vous parlez. Donc quand j'ai commencé à faire les concerts acoustiques, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais je pouvais pas. Les gens qui sont autour de moi maintenant disaient, non mais il était trop jeune. Et ils venaient à la maison avec mon fils quand ils avaient entre 12 et 14 ans. Et c'était vraiment un tout petit gamin dans un uniforme. Et il était coquin d'ailleurs. Et je me rappelle, j'avais peut-être 40 ans, la trentaine, quelque chose comme ça. Et maintenant j'ai à peu près 70 ans et eux ils ont la quarantaine. Ils sont comme des gamins pour moi, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose que j'ai avec Andy Brook. Encore une fois, un accident, j'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Donc c'est vraiment un plaisir et très excitant de vivre tout ça. Et ça va me faire tenir, si c'est toujours aussi excitant. Je sais pas pourquoi où j'irai, mais je vais continuer à aller de l'avant en tout cas.
On se rend compte que vous ne faites pas du tout votre âge. Et qu'il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est l'émerveillement que vous avez dans vos yeux et le plaisir que vous avez à faire de la musique. Il y a un vrai sens, il y a une vraie histoire qui est racontée dans cet album, dans ce projet que vous aimez tant. Ça commence par Much Better et ça termine par Time to Remember. C'est-à-dire qu'à la fois, vous mêlez les anciens et les jeunes. Les générations se rencontrent pour ne faire qu'une. Est-ce que c'est pas ça aussi le sens de la vie, le sens de ce que vous avez toujours proposé?
Vous avez l'air de comprendre ça encore mieux que moi, hein, vraiment. Il y a tellement d'accidents qui sont arrivés. Comment est-ce que c'est arrivé? Je n'en sais rien. Mais ça me fait très plaisir d'être là où je suis en ce moment. Comme vous le dites, j'ai 76 ans. C'est bête, c'est stupide, en fait. Je devrais être à la maison, en train de me relaxer et à laver mes fausses dents et à parler comme ça. Mais non. Encore une fois, je suis excité par ce qui se passe. Il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je peux ? Et puis voilà, je le sors. Et puis bah, demain, on va en Allemagne. Aujourd'hui, je suis ici avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin de ça, que ce soit de l'adulation, que ce soit de la validation de la part des gens. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je vois souvent, vous savez, le bâton avec la carotte, vous savez, pour l'âne, pour qu'il avance. Je crois que je poursuis cette carotte depuis tellement d'années. Mais qu'est-ce qui se passe quand on atteint la carotte ? Je ne veux pas atteindre la carotte, parce que... C'est sûrement juste une carotte, en fait. Y aller, essayer de l'atteindre, ça fait tellement plaisir. Surtout ces 5 dernières années où je n'aurais jamais cru qu'à mon âge, j'aurais recommencé. Je suis vraiment très excité par tout ça.
Vous incarnez beaucoup de choses. Statu quo incarnait beaucoup de choses et donc Francis Rossi incarne beaucoup de choses. On pense à l'équipe de football de Manchester United avec cet hymne de football par excellence, Come On Your Heads. Là, on a justement Push Comes to Shove. On a l'impression que c'est un peu... C'est dans la même lignée. Il y a toujours cette envie de créer des chansons qui sont fédératrices.
Oui, je crois, j'avais juste ce désir. Et puis, depuis que j'ai écrit avec Iran pendant 5 ans, je crois que j'ai écrit plus que je ne l'ai jamais fait. Mais ça a commencé comme ça. Mais comme je le dis, il ne reste plus trop longtemps. Donc j'essaye de faire vite, beaucoup et en très peu de temps. J'espère que vous viendrez aux funérailles en tout cas.
Vous avez été adopté très tôt en France. Il y a eu le titre In the Army Now, qui a été repris d'ailleurs par la troupe des Enfoirés. C'est devenu ici les Enfoirés pour leur campagne destinée à recueillir des fonds en faveur des Restos du Cœur. Il y a j'ai l'impression un amour de la France particulier pour vous. En tout cas, le public a toujours été présent. Est-ce que quand vous venez en France, il se passe quelque chose d'essentiel ?
Oui, c'est drôle que vous disiez ça parce que ça fait des années que je sais qu'il y avait les Who, les Pink Floyd et nous, les trois groupes british qui pouvaient faire des trucs ici. Il y a très très longtemps, quand vous n'avez pas de très bonnes salles, avant que vous ayez le Zénith et tout ça. Et puis ça s'est arrêté, il n'y avait pas de raison. Vous pouvez essayer d'expliquer les choses dans vos carrières, mais je me rappelle avoir parlé à Pascal Bernadin, qui est un promoteur, un tourneur. On lui a envoyé une lettre en disant « on n'a plus besoin de toi ». Et ça s'est arrêté. Donc, parfois, quand j'entends parler de groupes, de vieux groupes, je me dis « mais où est-ce qu'ils sont passés ?» On voit seulement la façade dans le show business, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière la façade ? Donc, ça me manquait beaucoup de venir en France. C'était toujours beaucoup de travail, mais il y avait quelque chose de spécial avec le public français. Vous gardez concentré, parce que vous jouez une chanson populaire, les gens sont comme des fous, et dans la plupart des territoires, après ça, vous avez le public. En France, vous jouez votre tube, et après, ils se calment. Et ils me disent, vas-y, fais-moi voir quelque chose d'autre. Et comme je l'ai dit au début, ça faisait très peur. Mais au fur et à mesure des tournées françaises, on finit par apprécier qu'ils écoutent. Et ça, c'était un bonus, en fait, à l'époque. Quand on était en Suède et que les grands étaient ivres morts, des gens de 14 ans qui rataient le spectacle parce qu'ils étaient ivres et qu'ils manquaient le spectacle, les Français, eux, ils écoutent. Non, on écoute. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a manqué quand je n'étais pas ici. Donc peut-être que je vivrai assez longtemps pour revenir jouer ici.
Il y a beaucoup de chanteurs, ceux qui restent, j'ai envie de dire, qui sont marqués par la vie, beaucoup, parce qu'ils sont tombés dans les drogues dures, parce qu'ils sont tombés dans l'alcool, dans la fête, dans les longues soirées. Comment vous avez fait, vous, pour rester en si bonne forme ?
Je connais votre opticien et il vous ment, vraiment. J'ai fait un peu de drogue et un petit peu d'alcool, et les gens n'aiment pas d'habitude en parler. Mais dans la société, on pousse les gens à boire. Prends un verre. Je n'ai jamais aimé ça, mais on était à Montréal avec Queen. Ils m'ont dit, vas-y, bois quelque chose. Et donc, j'ai bu une margarita, j'ai commencé à m'amuser. Et j'ai bu 6 margaritas. Et là, j'ai commencé à boire. Et maintenant, j'ai compris pourquoi les gens buvaient. Et ça m'a amené à la cocaïne, que je n'aurais jamais fait sans ça. Et donc, il y a eu 6 ans de flou. Pour eux, j'ai une très bonne mémoire, mais pour cette époque-là, vraiment, je me rappelle très peu de choses. Et j'ai décidé d'arrêter. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrêtent, on fait vraiment, on prend un engagement, on arrête. On s'est dit nous-mêmes que ça allait être un problème. Je ne bois plus maintenant sur scène. Et à un moment, je ne buvais plus du tout. Mais avec la cocaïne, on allait faire un album. Vraiment, c'est un contexte très facile d'y retomber. Je ne voulais pas ce sentiment que vous donne la cocaïne pendant que je fais l'album. Parce que si vous ne l'avez pas, vous vous dites que vous ne pouvez pas travailler. Donc je me dis, ok, je vais prendre de la coke juste avant d'avoir un jour de libre. Et quand on est arrivé ce moment-là. Je me suis dit, non, j'attendrai le prochain. Au final, j'en ai plus pris. Comme la plupart des choses que j'arrête, j'essaye de couper très fort. Et je me dis, non, j'attends le prochain jour de libre. Tous les trois libres, on avait un jour de libre. Non, après avoir fait ça pendant un mois ou deux, vous n'avez pas envie de vous laisser tomber vous-même, en fait. Donc, l'idée même d'y retourner, c'était dégoûtant. Donc, c'était étrange, mais c'est comme ça que ça a fonctionné.
Vous êtes sportif, d'ailleurs. Vous avez un mental d'acier. Vous nagez beaucoup. Ça joue, ça aussi, beaucoup sur la vie. Le fait de monter sur scène comme on rentre dans un match de foot ou dans un match de boxe, ou voilà, de se dire j'ai envie de vivre pleinement ce qui est en train de se passer.
Je crois que cette période où j'ai commencé à arrêter, je devais avoir d'être au milieu de ma trentaine. Et puis j'ai commencé à travailler, à m'entraîner, à aller à la salle, et j'ai été de mieux en mieux. La nage, ça m'aide avec ma capacité pulmonaire. Et c'est ça qui m'énerve quand je fais pas certains exercices. Je rentre de tournée le 11 novembre et quand j'arrive, je rentre à la maison, je ne nage pas, je ne fais pas d'exercice pendant une semaine ou deux. Et maintenant, c'est de plus en plus long et donc je commence à avoir des poignées d'amour. Et maintenant, je sais qu'il faut que je retourne nager et faire des pompes et des abdos et tous les exercices qu'on peut faire. J'ai jamais voulu le faire, mais quand vous l'avez fait, c'est un sens d'accomplissement qui est incroyable. Et vous ne vous êtes pas abandonné. Vous ne vous êtes pas abandonné, laissé tomber. C'est comme d'arrêter les drogues, l'alcool ou tout ça. Si je m'abandonne à mes pulsions, je culpabilise et je m'en veux. Donc ça devient une obsession de ne pas ressentir ces sentiments.
Elle vous apporte quoi, cette carrière solo, dans tout ce que vous avez vécu auparavant, Francis Rossi, le fait de sortir justement un album que vous?
Comme vous l'avez dit, je l'ai fait moi-même. Ça fait 2 ans qu'on l'a, on pouvait le sortir. Le côté négatif, c'est que, comme je l'ai dit, si on atteint la carotte, il y a un sens de déception, en fait. Si vous avez eu les meilleures vacances de votre vie, bah, et maintenant quoi? Comment seront les prochaines? Donc avec ça, il faut que je fasse attention. Quel que soit le résultat, que ce soit un succès phénoménal ou un succès moyen ou que ça n'ait aucun succès, on continue. Nous, avant, on était tout le temps dans les charts. On les voyait dans les albums, dans les top 30, 30, 20, 30, 10. Et puis numéro 1, j'espère que ce sera numéro 1 la semaine prochaine. Et puis quand ça reste numéro 1 2 semaines, oh, j'espère que ce sera 3 semaines. Et puis à partir de là, vous ne pouvez que redescendre, en fait. Donc c'est très récemment que je me dis, oh, j'ai un nouveau projet à faire plutôt que aller à l'EHPAD.
Il y a un son très particulier. Ça fait tellement du bien d'écouter le son de cet album. On a l'impression de voir les micros à lampe. Il y a une ambiance, il y a une âme, il y a quelque chose. On a l'impression que vous avez tous enregistré en même temps. Et c'est un son très live, cet album. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez faire?
Oui, et un peu de ça, suivez de manière naturelle. Les gens disent, oh, tu mets les guitares en avant. C'est non, c'est arrivé, c'est tout. J'ai suivi les choses naturellement. Parfois, on se dit, ce que j'ai fait ici, c'était vraiment un coup de génie. Mais non, je suivais juste le mouvement. Et ça sonne comme ça, ça sonne comme si les musiciens s'éclatent. C'était le cas du reste. Et chaque jour à travailler dessus, c'était une joie, vraiment. Mais j'ai appris de Eurythmics il y a des années, il y a de très très nombreuses années. J'écoutais une interview d'Annie Lennox et il parlait de rentrer en studio à 11h du matin et de commencer. Et à 4h de l'après-midi, ils étaient prêts à rentrer. Il y a un nombre limité d'heures créatives dans la journée. Et ça, j'ai pris ce conseil parce que la plein de groupes, c'est facile d'arriver au milieu de la journée puis d'enregistrer jusqu'au milieu de la nuit. On est tout fatigué. Mais il y a vraiment un nombre limité d'heures créatives dans la journée. Et j'ai pris ces heures créatives pour cet album. C'est un des trucs qui a contribué à ce sentiment de son live dont vous parliez. Parce que dans beaucoup d'albums, on se dit, le groupe jouait en live, ils faisaient ça, ils faisaient ci. Et pourquoi est-ce qu'on l'entend pas sur l'album? Parfois, ça arrive, je suis content que ça sonne comme ça. Mais l'ingénieur du son était également très, très, très fort. Tout le monde qui a travaillé dessus était très, très bon. Mais comme je l'ai dit, dans 6 semaines, peut-être que tout le monde s'est dit, oh non, c'était une erreur, en fait. On ne sait pas.
Je voudrais que vous me parliez juste d'une chanson de Be My Love. Il y a un truc avec cette chanson. J'ai l'impression que là, vous arrivez à fendre l'armure, Francis. Il y a effectivement beaucoup d'humour tout le temps dans ce que vous dégagez, dans ce que vous racontez. Mais il y a quelque chose de tendre chez vous qui, évidemment, là, nous touche en plein cœur avec cet album.
L'ambiance de cette chanson, c'était très début des années 60, quand le groupe a commencé à se former. On jouait à Docklands à Londres. Il y avait plein de petits pubs. Et beaucoup de groupes jouaient ce genre de rythme. Les Animals faisaient ça, John Lee Hooker et Sonny Terry, Brian McGee, des artistes de blues, des vieux artistes de blues noirs, plus jeunes que moi, mais vieux. Aujourd'hui, on appelle ça du R&B. Les Noirs américains, c'est différent, quoi. Je m'amusais juste avec la guitare. Et quand on arrive à atteindre cette ambiance en écrivant une chanson, la joie, maintenant, aujourd'hui, tout est dans mon téléphone. Je peux l'enregistrer, mais ce que je vais faire dans le futur, maintenant, je peux le garder sur mon téléphone. Et vous pouvez capturer, quel que soit le moment inspirant, si ce terme veut encore dire quelque chose d'inspirant. Et je me dis, ah, j'aime cette idée. Donc, si j'ai pas de guitare, je vais chanter. Et puis la mélodie, et on va le regarder parfois plus tard. Et si ça parle me parle ou à quiconque je le fais écouter, ben c'est parti. Parfois vous réécoutez et vous dites, oh, je sais pas à quoi je pensais à ce moment-là, mais c'est nul. Et vous l'effacez. Mais là, c'était une de ces chansons où ça marchait. Oh, I like them. Mais je les aime toutes, hein, je les aime toutes.
Cet album, c'est un tête-à-tête avec nous et c'est un tête-à-tête avec vous. Est-ce qu'il vous correspond ? Est-ce que l'image que vous regardez dans le miroir aujourd'hui vous plaît ?
Non, je n'aime pas.
Je suis très heureux. Il y a une femme qui travaille avec moi. Ça fait 29 ans qu'elle travaille avec nous. Et il y en a un qui est là depuis 20 ans. Et cette histoire, ouais, il y a 20 ans, j'étais en train de m'habiller. Je regardais dans le miroir et je disais, regarde, je suis bien là. Dans une pièce avec les lumières basses, sans mes lunettes et de dos. Hein, je suis bien de dos, non ? Mais maintenant j'ai un trou dans les cheveux, donc avant de rentrer, je voyais les retours vidéo et je voulais pas regarder, je ne regarderai pas parce que je ne sais pas qui est cette personne. Je sais qui est à l'intérieur, mais si ça va aux gens, tant mieux. Donc j'ai pas à faire trop attention à qui ça ne plaît pas, ils vont me hanter, ils voient la peau qui pend et les cheveux qui s'en vont et les yeux qui tombe. Donc je ne pense pas à lui, là, à cette carcasse. C'est juste le gars qui est à l'intérieur qui m'intéresse.
Alors le gars à l'intérieur s'appelle Francis Rossi et je voudrais vous remercier justement, Francis, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info avec cet album qui est vraiment un délice. Il faut le découvrir. Si vous aimez le son à la britannique, comme on dit, mais le vrai son, celui qui fait du bien, n'hésitez pas à écouter cet album. The Accidental est donc disponible. Merci beaucoup.
Thank you, ma'am. I've been walking in the dead of night. I ain't been sleeping when I do, it's like I got a new obsession. I think I need confession. Can't deal with all this stressing, 'cause in my head it's messing. I've been talking in my sleep at night. You've been saying that it just ain't right. Whatever I've been saying, you said you're just not playing to keep myself from straying. Back in action, I need a resolution. Give me my night.